Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Les Landes de Christine de Rivoire. Le Petit Matin est un roman de Christine de Rivoire, paru en 1968, ayant reçu le prix Interallié. L'intrigue se situe dans le sud-ouest à l'époque de l'occupation, dans les années 1944-1945. L'écrivain y retrouve les Landes et sa famille, dominée par la figure de son père cavalier. Elle y raconte l'histoire d'amour entre la jeune Nina et un cavalier allemand. Les chevaux et les paysages des Landes sont au cœur du livre. De nombreux critiques ont comparé l'écrivain à Colette pour son évocation de la nature et des relations entre les deux personnages et les chevaux. À partir de Petit Matin, beaucoup de romans de Christine de Rivoire ont pour cadre les Landes. En 1973, c'est un nouveau retour aux Landes et à son enfance, avec Boy. Elle y met en scène la bourgeoisie bordelaise et raconte le destin tragique d'un jeune homme, Boy, à l'encontre et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, symbole de la fin d'un monde. Le roman frappe les lecteurs par sa construction. Le récit fait alterner les paroles d'Hildegarde, une adolescente, et de Susan, une domestique, toutes deux amoureuses du héros. On voit également apparaître dans le roman le personnage de Maria Santuc, transposition romanesque de Marie Lacoste, la servante de la grand-mère et de la mère de Christine de Rivoire, personnage central dans la vie de l'écrivain. Christine de Rivoire est née le 29 novembre 1921 à Tarbes. Marie-Christine Denis de Rivoire passe une partie de sa jeunesse dans les villes de garnison où son père François, officier de cavalerie, est envoyé. Après des études au Sacré-Cœur de Bordeaux puis de Poitiers, dont elle gardera toujours un excellent souvenir, elle part à Paris pour étudier la littérature anglaise et la civilisation américaine. Après une licence, elle obtient une bourse pour aller étudier le journalisme à l'université de Syracuse, dans l'État de New York. Ce séjour américain lui inspirera plusieurs romans. La tête en fleurs en 1960, La glace à l'ananas en 1962, Le voyage à l'envers en 1977. De retour à Paris, elle est quelque temps attachée de presse des ballets des Champs-Élysées. Elle avait connu Roland Petit et les danseurs du ballet avant-guerre. C'est à cette époque qu'elle rencontre le journaliste Olivier Merlin, responsable des pages sportives et des critiques de spectacles au Monde. Celui-ci lui propose de rejoindre le quotidien d'Hubert Beuve-Méry, un temps courriériste. Christine de Rivoire est ensuite chargée des interviews avec les artistes anglais et américains. En 1954, des problèmes de santé l'obligent à abandonner sa collaboration au quotidien. Alors que sa carrière de romancière débute, Christine de Rivoire est engagée par Marie-Claire pour prendre la direction littéraire du magazine. Malgré des relations difficiles avec sa direction, elle réussit à faire publier des textes importants d'auteurs contemporains, parmi lesquels François Nourricier et Félicien Marceau, qui deviennent des amis. En 1957, La Mandarine connaît un succès critique et public. La première phrase, « L'amour me donne faim », marque une époque et annonce les revendications féministes, sociales et culturelles qui se feront jour pendant la décennie suivante. Des problèmes internes à la maison d'édition Plomb conduisent Christine de Rivoire à reprendre son indépendance. François Nourricier lui propose alors de rejoindre Grasset, qui, grâce à Christiane Rochefort et Françoise Malé-Joris, connaît un renouveau. Elle y publie en 1964 « Les Sultans », un nouveau succès. En 1966, Christine de Rivoire met fin à sa collaboration à Marie-Claire et décide de se consacrer à l'écriture. Elle ne reviendra au journalisme qu'épisodiquement, notamment pour l'Express, à la demande de son amie Madeleine Chapsal. Cette même année, elle fait la connaissance à Tunis lors de la remise du prix des quatre jurys à Albertine Sarrazin d'Alexandre Calda, un romancier précoce. Son premier roman fut publié alors qu'il n'avait que 16 ans, homosexuel, avec lequel elle entretiendra une relation longue, forte et douloureuse. C'est une période d'intense création pour la romancière dont l'œuvre prend un nouveau tournant avec la parution en 1968 de son roman « Le Petit Matin », couronné par le prix Interallié. Au début des années 1980, Christine de Rivoire hérite de la maison de sa mère à Aunay-et-la-Harry, dans les Landes, où elle décide de s'installer. Ce retour permet à l'écrivain de s'adonner librement à sa passion du cheval. Cette redécouverte lui inspire Belle Alliance en 1982, Reine-mère, publiée en 1985, est un portrait sans concession de la jeunesse tourmentée de la fin des années 1970. Dans Crépuscule taille unique, 1992, la mort du cheval et son enterrement au début du roman s'inspirent de la disparition du buveur d'air, un des chevaux préférés de l'auteur. Racontez-moi les flamboyants, en 1995, poursuit l'évocation de la bourgeoisie bordelaise, commencée dans Boy, sur un mode plus autobiographique. Cette même année, Christine de Rivoire apprend la mort accidentelle d'Alexandre Calda en Inde. Cette nouvelle la bouleverse. Elle avait fait de nombreux séjours dans l'ashram de Pondichéry où son ami s'était installé. Elle cesse de publier. Partageant son temps entre Paris et les Landes, elle se consacre à la défense du patrimoine des Landes, notamment le musée de Marquèze à Sabre et l'œuvre de Félix Arnaudin, un photographe du XIXe siècle, et à la défense des animaux. L'écrivain met fin à son silence en 2007 en publiant un livre en hommage à Alexandre Calda, son ami disparu, sous le titre « Archaka », du nom qui lui avait été donné à l'ashram et qui signifie « celui qui a trouvé la lumière ». Christine de Rivoire décède le 3 janvier 2019 dans le 15e arrondissement de Paris à l'âge de 97 ans. Elle est inhumée au cimetière d'Aunay-et-la-Harry, dans les Landes, où elle résidait. Tout m'ensourcelle sous les pins, au long des chemins de sable d'un blanc d'ossement. Brisés, détrempés, les fougères sont d'un brun chaud, des cailloux de chocolat. Les légendes landaises regorgent de loups-garous, de fées facétieuses, de génies à la fois redoutables et très gais. Qui sait si certains d'entre eux ne rôdent pas près de moi, derrière les hauts bousquets, d'herbes sèches, les aougues, et plus loin, au fond du pré où j'enfonce jusqu'à m'immoler au bord du ruisseau qui va s'entre impaisible entre les chênes tauzins et les vergnes dont le bois sert aux sabotiers et l'île Estruau pour faire nos sabots. J'ai peur et je n'ai pas peur. Je veux cueillir l'instant dans tout son charme vif, immédiat, ne rien en perdre. J'ouvre grand les yeux, je tends l'oreille à tous les bruits, à tous les chants, aux moindres musiques d'Aunay-et-la-Harry, toutes les odeurs montent à mon nez. Ce pays, je l'aime farouchement. Ma susceptibilité en ce qui le concerne ne connaît pas de frein. Je permets, à qui en éprouve l'envie, de se moquer de mon nez, il est sans doute trop long, de critiquer mes livres, ils sont peut-être trop courts, mais gare à celui qui accuse ma forêt d'être monotone, son sous-bois triste, ses rivages impraticables. Les Landes, c'est mon pays, c'est mon cœur géographique. Mon pays, en réalité, fait partie d'une région dont il est néanmoins totalement dissemblable. Les Landes sont doubles. D'un côté, la Chalosse, grasse, verte et opulente. De l'autre, le Marensin, océanique et sylvestre, autant dire âpre, sauvage et violent. À mes yeux, le Marensin, c'est ma région, incarne les vertus du grand romantisme. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux livres des sœurs Brontë, en particulier les Hauts de l'Hurlevent, lorsque je séjourne dans mon pays. J'évoque également le souvenir de Victor Hugo. C'est, je crois, la spirituelle quasi-religieux, en même temps que féroce de mon pays qui me bouleverse. La forêt est pour moi comme une cathédrale primitive. Quant à l'océan tout proche, il m'apparaît comme le miroir des passions et même de l'âme. Je considère comme un privilège d'être landaise. Les Landes, je les découvrais tous les ans, à Noël et au Nouvel An. Notre famille se retrouvait à Aunès. J'ai 8 ans, 10 ans, davantage. Je suis de nouveau dans la cuisine de la maison au volet gris. On ne m'emploie pas. Je suis trop maladroite. Je ne sais que regarder. Je regarde la comédie gastronomique. J'enregistre l'opération, réplique, fumée. Et puis soudain, je m'enfuis. Voici le jardin. Un vif soleil d'hiver fracasse en douceur les brumes attardées, les chères brumes landaises. Les tilleuls, les érables sont nus. Les magnolias, privés des lourdes fleurs blanches dont l'été venu m'enchantera le parfum de poivre et de citron mêlé. L'aurocaria ressemble à un gigantesque serpent aux écailles en relief. Il y a aussi un pin franc, très, très grand, très, très vieux. Peut-être a-t-il été planté par le père du trisaïeul de ma grand-mère, qui était juge, et une hête de bambou, de tonnelle, 4 ou 5 palmiers, que l'on abattra bêtement, férocement, comme l'on a abattu la maison. Le jour où j'ai possédé un jardin, mon premier soin a été d'y planter des palmiers. À gauche, la petite usine de produits résineux qui ne fonctionne plus, et dans les cuves et les toboggans de laquelle nous aimons bien jouer. À droite, à 2 pas, la forêt. C'est elle que je choisis, vers elle que je cours, seul, en sauvage né et bien exercé, sans prévenir qui que ce soit. La forêt des Landes est un monde. Pour peu que l'on s'y aventure, au moment propice, que l'on fasse durer l'exploration de façon convenable, buttes, collines, vallées, sentiers riches, en tournant et en surprise, allées si longues qu'elles vous semblent rejoindre le ciel, fossés, ravins de toute taille, obstacles inattendus, les cadeaux qui offrent une nature comparable à nulle autre sont d'une extrême variété. C'est la forêt magique du petit poussé. C'est la jungle amicale où les chevreuils ont remplacé les loups. Une brousse peuplée de sources et de ruisseaux qui chantent. C'est le paradis rude et singulier que je me suis choisi, et tant pis si c'est trop tard pour lui en préférer un autre. Les Landes, ce sont les racines que je me suis offertes. Dans le village de ma grand-mère, devenu celui de ma mère et récemment le mien, on les trouvait chez Lille Estruau, le sabotier, ses cartes postales aux jolis dégradés, sépia et terre de sienne. Je revois la petite fille que j'étais grimper les 5 marches qui conduisaient au magasin L'Estruau. Face à la porte d'entrée, l'épicerie Mercerie, le comptoir qui embaume la cire de gruyère et le clou de girofle, le bocal où sont prisonnières les souris en chocolat, leurs queues sont en réglisse, celui des acidulés minuscules et multicolores appelés Julienne. Près de la fenêtre, la vitrine. Là-dedans, enfin, et soigneusement rangée, enveloppée de papier de soie, presque dissimulée parmi les rubans fantaisie, les barrettes kirdi et les épingles neige, les fameuses cartes postales. J'arrête le temps. C'est l'été. Les volets gris sont à l'espagnolette. Le carillon de la porte fait entendre ses 2 notes chaque fois qu'une ménagère vient acheter du fil, de la moutarde, des pelotes de laine, des haricots ou des sabots. J'enregistre les voix. Le dialecte gascon si évocateur que je finis par comprendre 1 mot sur 2. On parle de la chasseresse, si dure au maïs, de l'orage terrible qui a foudroyé une mule dans une métairie, de la mort d'un voisin, de la fête prochaine. J'écoute la chronique de mon village et je regarde les cartes postales. Les beaux jours engloutis. L'hiver revenu avec son morose cortège de problèmes d'algèbre et de confessions hebdomadaires, mêlé à mes souvenirs de vacances, des images seront là, intactes dans ma tête et lumineuses, consolantes. Elles me parleront du pays qui, depuis mon plus jeune âge, m'ensorcelle, celui que, sans l'ombre d'une hésitation, je choisirai pour y vivre le second versant de ma vie. Mon image favorite est celle du Cascan. C'est ce personnage singulier qui a une guirlande de fleurs sur le seuil de sa porte. Il est le messager chargé d'inviter les habitants d'un quartier à un mariage. Il sera l'échaussant durant les 2 jours que durera la fête. Il encouragera le joueur de cornemuse, le joueur de flûte et les danseurs de rondeau ou de scottish qui sauteront sur les reins jusqu'à la tombée de la nuit. Plus tard, jusqu'à l'aube, dans les brumes qui monteront du ruisseau tout proche. Ces brumes, encore un sortilège de mon pays où, si on se donne la peine de bien l'observer, tout est poésie. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.